Bonjour chers auditeurs de Radio Conciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. J'ai le plaisir d'avoir avec moi dans le studio Nicolas Balsamo qui est déjà venu et qui a fait déjà d'autres émissions avec moi sur le protestantisme à Chartres et aujourd'hui il va évoquer avec nous un évêque de Chartres qui était soupçonné de sympathie calviniste. Nous allons parler de Charles Guillard. Alors bonjour Nicolas Balsamo.
Bonjour.
Alors je vous présente, vous êtes actuellement doctorant en histoire à l'école pratique des hautes études à Paris.
Oui.
Et vous connaissez très bien l'histoire de Chartres au XVIe siècle. Vous avez fait aussi une maîtrise, je crois.
Oui, exactement.
Voilà. Vous parlez des guerres de religion, donc vous connaissez très bien cette époque. Et vous allez donc nous présenter cet évêque qui a eu effectivement quelques problèmes au milieu du XVIe siècle. Alors, qui est Charles Guillard? Peut-être voulez-vous parler de cet évêque et nous le présenter.
Alors, quelques mots déjà de ce qui l'a rendu célèbre. Bien malgré lui, d'ailleurs, je crois qu'il s'en serait bien passé. C'est sa condamnation, puisqu'il a été condamné comme hérétique et apostat, donc ayant abandonné la foi catholique, par le Saint-Office, et donc par Rome, en 1566. Il n'y a pas eu pour lui de suite vraiment pratique grave, dans la mesure où, pour un certain nombre de raisons politiques, la France qui tenait à une certaine autonomie, ce qu'on appelle le gallicanisme, cela a fait qu'il est resté en possession de son siège et il n'a pas ensuite fait l'objet d'un procès. Mais enfin, il est mort tout à fait paisiblement, mais enfin, le fait n'en reste pas moins qu'on a quand même un cas assez rare et assez étonnant d'un évêque catholique d'un grand diocèse. Chartres est un des plus grands diocèses de France à l'époque, près de 900 paroisses, 4 fois plus par exemple que le diocèse d'Orléans. Donc un évêque d'un très grand diocèse qui est condamné pour hérésie par Rome, ce qui est quand même assez étonnant.
Et il marquera son épiscopat surtout par son absence.
Oui, ça nous allons effectivement en dire bientôt quelques mots. C'est quelqu'un qui a été très curieux finalement parce qu'il a été à la fois assez actif par les textes qu'il a publiés, et en même temps, assez curieusement, pour des raisons qu'on ne s'explique toujours pas aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours fait son métier d'évêque au quotidien, c'est-à-dire qu'il a été quand même assez souvent absent.
Alors, il faut peut-être parler de son accession au siège épiscopal. Vous le rappelez dans votre excellent article publié par le bulletin de la Société archéologique de Ré-Loire, dans le bulletin numéro 101 de juillet-août-septembre 2009, vous parlez un peu de son parcours. Comment est-ce qu'il est parvenu au siège épiscopal? Par son oncle Louis Guillard, peut-être.
Oui,
vous voulez peut-être en parler.
Oui, essentiellement, évidemment, grâce à sa famille. Charles Guillard, né en 1529, dans une très vieille famille de magistrats parisiens, qui est déjà très bien en cours. Et surtout, son père est un haut magistrat, un diplomate aussi, mais c'est surtout son oncle, Louis Guillard, qui va lui mettre le pied à l'étrier. Louis Guillard est évêque de Chartres depuis le début du XVIe siècle. Il est devenu évêque de Chartres en 1525. Et il va le rester officiellement jusqu'en 1553, mais dans la pratique jusqu'en 1558. Louis Guillard, c'est un bon évêque, comme on disait au XVIe siècle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a lui vraiment pris au sérieux son métier d'évêque. Il a résidé, il a mené un gros travail de réforme, mais aussi c'est quelqu'un qui, dans la mesure où il descend d'une grande famille, comme beaucoup de gens de cette époque, il a tendance en quelque sorte à considérer les charges de l'Église comme une sorte de patrimoine familial. Et dans la mesure où le siège de Chartres, c'est à la fois quelque chose qui rapporte et qui est prestigieux, il estime que cette charge doit rester dans la famille. Du coup, comme évidemment il n'a pas de fils, c'est à son neveu qu'il va le transmettre en quelque sorte. Il y a une sorte de procédure pour cela, on dit qu'il résigne son évêché au bénéfice de son neveu. Il le fait en 1553. Charles Guillard, à cette époque-là, est donc très jeune, il a 24 ans. Nous ne savons rien de ses études, elles semblent avoir été assez bonnes, puisque les textes qu'il a produits sont de vraiment bonne qualité. Il semble avoir eu une solide formation en philosophie et en théologie.
Et intellectuel, sans doute, mais oui. Il n'est pas prêtre.
Non, effectivement. À ce moment-là, il n'est pas prêtre, il n'a même pas reçu les ordres mineurs. Alors, là encore, on arrive à trouver une sorte de passe-droit. Et il faut attendre toutefois 4 ans pour qu'il soit ordonné prêtre, c'est le cas en 1557. Pourtant, il va attendre encore un an avant d'arriver à Chartres, faire son entrée solennelle. L'entrée de l'évêque à Chartres, à cette époque, donne lieu à de grandes cérémonies. Donc, 5 ans entre le moment où il devient évêque en théorie et le moment où il va vraiment le devenir en pratique.
Et tout le monde l'attend, parce que la réforme sévit un peu partout, et même à Chartres, apparemment,
oui.
se sont constituées des assemblées.
Effectivement, il est attendu, parce que depuis un moment, Louis Guillard, qui pendant longtemps a été extrêmement actif, ne l'est plus autant, en plus il est assez âgé maintenant, évidemment tout le monde attend le nouvel évêque, les catholiques l'attendent en espérant évidemment qu'il va mettre de l'ordre. Et... évidemment, sa présence vraiment physique, le fait qu'il soit là dans son diocèse, qu'il visite les paroisses, c'est très attendu.
Donc il n'est pas prêtre, il va attendre 4 ans à assumer sa charge. Et le pape Jules III, d'ailleurs, va accorder un indulte, lui permettant à ce jeune prélat de recevoir immédiatement, comme vous le dites, les ordres mineurs et majeurs, parce qu'il faut quand même que l'évêque soit au moins prêtre.
Il faut qu'il soit au moins prêtre, en principe, il faut 24 ans révolus. Bon, il a un an de moins. Enfin,
donc l'âge ne pose pas de problème,
voilà,
puisqu'il y a...
finalement le plus important. Mais en fait, avant même d'arriver à Chartres, donc il arrive en 1558, un an plus tôt, en 1557, il va publier ses premiers statuts synodaux. Les statuts synodaux, c'est à peu près, sont à l'évêque ce que la déclaration de politique générale est au Premier ministre. Hein. C'est une sorte de document... qui est en principe d'abord élaboré à l'issue d'une grande réunion de tout le clergé du diocèse, et où l'évêque décline un peu les lignes principales de sa politique. Il dit quels sont les grands chantiers et quels sont les chantiers qu'il va mettre en œuvre, vraiment les grandes lignes de sa politique générale.
Alors par quoi ou par quelle idée maîtresse vont se distinguer ces statuts synodaux publiés sous Charles Guillard, tout jeune prélat ?
Cela, mais aussi les suivants, parce que c'est vraiment la grande constante. Autant les idées théologiques de Charles Guillard, semble-t-il, ont beaucoup changé au cours de sa vie, autant ses conceptions en matière pastorale sont restées immuables. La grande idée de Charles Guillard, c'est qu'il faut réformer les prêtres. Il a, semble-t-il, une vision extrêmement pessimiste de la qualité des prêtres de son époque, surtout de leur formation. Et bien, dès ses premiers statuts, il proclame qu'il faut changer tout cela, qu'il faut désormais avoir des prêtres mieux formés, surtout des prêtres qui ne passent pas d'une paroisse à une autre, des prêtres qui restent vraiment auprès de leurs ouailles dans un diocèse et qui ne passent pas d'une paroisse à un autre, d'un diocèse à un autre. C'est cette idée selon laquelle le prêtre doit vraiment être stable, géographiquement, c'est vraiment quelque chose qui comptait énormément pour lui.
Vous le rappelez dans votre article que ces statuts synodaux, les premiers qu'il va publier, étaient calqués sur ceux de son oncle Louis Guillard, qui lui est un évêque catholique hors de tout soupçon, et que dans ses premiers statuts, il va reprendre les articles de foi publiés par la faculté de théologie de Paris. Donc là, il n'y a absolument aucun problème, tout va être repris.
Oui, ça,
parce que ça va changer plus tard.
Ça, évidemment, ça va changer. Mais ces premiers statuts, ils sont vraiment, d'un point de vue théologique, ils sont dans la droite ligne de ceux de l'oncle. Et l'oncle, on le sait, n'avait absolument aucune sympathie pour la réforme. Et de ce point de vue-là, il semble qu'au début de son existence, de sa charge d'évêque, Charles Guillard, pour autant qu'on puisse le savoir, était encore dans la droite ligne d'un point de vue théologique de son nom.
Avant d'écouter un petit morceau d'orgue de l'époque de Charles Quint, rappelons qu'il y avait dans ses statuts synodaux aussi un bref article consacré à la répression de l'hérésie et que l'évêque invitait les curés de prier avec leurs paroissiens pour le retour des hérétiques dans le jurant de l'Église. C'est important, je pense, pour l'évolution quand même de l'évêque telle que vous allez nous pouvoir la présenter après cette petite pause musicale. Nous parlons avec Nicolas Balsamo, dans le studio de Radio Grand Ciel, de Charles Guillard, évêque de Chartres au temps de la Réforme, un évêque qui, tout jeune, nommé ou plutôt arrivé au siège épiscopal grâce à son oncle Louis Guillard, qui n'est pas encore prêtre, comme vous dites. Et donc à 24 ans, il va rassembler tout le clergé de son diocèse et publier les statuts synodaux. Alors, qui est, à l'époque où Charles arrive, le théologal de la cathédrale? Et qu'est-ce qu'un théologal? Peut-être pouvez-vous le rappeler à nos auditeurs.
Un théologal, c'est un chanoine de Chartres, donc un membre du chapitre. Il a l'une des 72 prébendes, il y a 72 chanoines à Chartres, ce qui est d'ailleurs beaucoup. C'est l'un des plus grands chapitres de France. Le théologal, c'est une charge à l'intérieur du chapitre. C'est en fait le théologien en chef du diocèse. Parce que l'évêque, à l'époque, n'est pas toujours un théologien. En général, d'ailleurs, les dignitaires de l'Église à cette époque-là, qui sont gradués de l'université, donc qui ont un diplôme universitaire, sont plutôt gradués en droit. Et il faut quand même voir un théologien de manière à surveiller un peu les prédicateurs, savoir si tout est bien dans l'ordre d'un point de vue
théologique.
Et le théologal fait vraiment office de théologien maison. Chartres a eu pendant pas mal d'années d'ailleurs un théologien célèbre, qui ne l'est plus beaucoup aujourd'hui, mais enfin, qui à l'époque l'était, Jos Clijsthoff, qui a été d'abord une grande figure de l'humanisme, puis qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, au moment du déclenchement de l'affaire Luther, est devenu l'un des plus ardents adversaires de Luther.
Est-ce que c'était un Néerlandais,
Clijsthoff? Oui, il est effectivement originaire des Pays-Bas, et sa fortune a été assez rapidement liée à celle, justement, de l'oncle de Charles Guillard, qui l'a amené avec lui à Chartres lorsqu'il est devenu évêque en 1525, et Jos Clijsthoff a vraiment été le maître à penser de cet évêque. C'est lui qui a un petit peu posé les bases théoriques de la...
Donc non seulement de Louis Guillard, mais aussi de son neveu...
Non, parce qu'il est mort à ce moment-là. Quand
il arrive.
Il est mort depuis depuis une dizaine d'années. Et lorsque Charles Guillard arrive au pouvoir, en quelque sorte, parce que c'est un pouvoir à l'époque, il trouve effectivement un certain nombre de dignitaires qui avaient été mis en place par son oncle. Et ces dignitaires, eux, sont tous fermement catholiques. Et ça, évidemment, ça amoindrit un peu la marge d'action du nouvel évêque, d'autant plus que ce nouvel évêque, comme nous l'avions signalé il y a quelques instants, ce nouvel évêque ne réside pas, au sens où il ne passe pas beaucoup de temps dans sa ville épiscopale.
Donc il ne peut pas s'appuyer sur le chapitre, par contre il va choisir des vicaires généraux.
Des vicaires généraux, autrement dit des remplaçants, qui le remplacent à la fois pour les tâches administratives et aussi pour les tâches proprement spirituelles dévolues à l'évêque, que sont essentiellement les ordinations. Alors évidemment, dans la mesure où il n'est pas là personnellement pour mettre en œuvre ses idées, en particulier sur la formation des prêtres, sur leur examen, de manière à avoir des prêtres vraiment dignes de leur tâche, dans la mesure où il n'est pas là pour faire cela personnellement, évidemment, toutes ses ambitions, eh bien, il faut les revoir à la baisse. Finalement, la réforme de Charles Guillard ne sera que ce qu'en feront ses collaborateurs, puisqu'il n'est pas là pour l'appliquer lui-même.
Alors, il n'est même pas là suffisamment souvent pour pouvoir ordonner des prêtres. Contrairement à son oncle, Louis Guillard,
était là pour faire tout personnellement. Charles Guillard n'est pas toujours là. Et c'est assez curieux dans la mesure où... Ce serait très facile à expliquer si Charles Guillard était l'un de ces prélats, et on en voit encore au XVIe siècle, qui sont là parce que, il fallait nommer quelqu'un dans la famille à cette charge d'évêque, mais qui sont plus intéressés par la chasse ou par les banquets. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas ici. Nous savons que Charles Guillard, la qualité des textes qu'il produit, et dont nous savons qu'ils sont vraiment de lui, c'était pas un secrétaire qui les a rédigés pour lui, nous voyons que c'est quelqu'un qui a vraiment à cœur les idées qu'il développe, c'est quelqu'un de très instruit, d'un solide niveau théologique, bref, c'est quelqu'un qui prend au sérieux la partie intellectuelle de son métier d'évêque. Mais justement, il semble que ce fut quelqu'un qui était essentiellement intellectuel et que, comme homme de pouvoir, et à l'époque, vu les immenses prérogatives qui étaient celles d'un évêque, il fallait également avoir ce caractère d'homme de pouvoir que son oncle avait à la perfection, mais que Charles Guillard ne semble pas posséder.
Voilà, vous le dites dans l'article, Charles Guillard fit preuve d'une certaine gêne, certaine pour le versant sacramentel de sa charge, parce qu'il va déléguer aux vicaires généraux le soin d'ordonner des prêtres. C'est assez étonnant quand même. Donc il faut mettre peut-être cette gêne qu'il semble manifester en rapport avec les statuts synodaux de 1564.
Oui, effectivement.
Parce que là, il y a quand même un hic.
Il y a un hic. Parce qu'effectivement, plus le temps passe et les statuts synodaux se succèdent, nous en avons quatre. Hein.
Est-ce que c'est fréquent de voir des statuts synodaux variés sous un seul évêque Combien de fois va-t-il publier des statuts? Quatre fois?
Il y a ce qu'il a publié et ce que nous avons conservé.
Donc vous pensez qu'il y en a encore plus?
En théorie, les assemblées synodales, c'est une fois par an. Toutes ne donnaient pas lieu à la proclamation de statut. Ensuite, nous avons trois statuts qui nous sont vraiment parvenus sous leur forme imprimée exactement. Nous avons des exemplaires. Nous en avons un quatrième qui est parvenu sous la forme de fragments dans un autre livre. Il n'est pas impossible qu'il y en ait d'autres. Dans la mesure où ceux qu'on a, en général, nous ne les avons qu'en un seul exemplaire. Donc nous avons tout à fait pu en perdre à peu près autant. Toujours est-il qu'il a quand même publié quatre statuts, déjà pas mal, et effectivement, cela change en cours de route. Il y a des changements, et ça, effectivement, ce n'est pas très fréquent. Ces derniers statuts qu'il publie en 1564, ils sont assez curieux dans la mesure où nous retrouvons la préoccupation principale de Charles Guillard, qui est la formation des prêtres. Cette idée selon laquelle il ne faut pas laisser des prêtres étrangers au diocèse venir prêcher, administrer les sacrements, non. Il faut que les seuls prêtres qui soient actifs dans le diocèse soient des prêtres formés et ordonnés à Chartres. Et d'autre part, il faut être très exigeant sur leur niveau moral et théologique.
Alors, quel est l'oubli donc dans les statuts synodaux?
Voilà. Mais curieusement, alors qu'à cette époque-là, il y a déjà, nous sommes à un moment d'accalmie, mais enfin, les guerres de religion ont quand même commencé depuis 2 ans.
En 62.
La réforme est une réalité. Il n'y a quasiment pas un mot sur ce sujet.
Et surtout, vous le dites, il n'y a pas l'Ave Maria. Il n'y a plus la salutation angélique dans les statuts synodaux publiés par un évêque de Chartres. Ouais. Or, le culte marial à Chartres est quand même primordial.
Oui, Chartres est un lieu de pèlerinage, dépositaire d'une relique réputée. Et évidemment, dans les prières qu'il prescrit, c'est assez curieux de voir que le pater et le credo sont là, mais l'Ave a disparu. Évidemment, de la part d'un évêque catholique, c'est curieux. Et quand on sait que le culte marial est justement une pomme de discorde entre les catholiques et les réformés, eh bien, ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir à l'historien, ça donne aussi à réfléchir aux autorités de l'époque, puisque dès ce moment-là, Charles Guillard a déjà de gros problèmes avec, en particulier avec le Saint-Office.
On va en parler après un très bref interlude musical. Alors, nous sommes toujours avec Nicolas Balsamo dans le studio de Radio Grand Ciel et nous allons parler maintenant du colloque de Poissy, un colloque convoqué par Catherine de Médicis, sans doute dans le souci de trouver un point commun ou un terrain d'entente entre catholiques et réformés.
Oui, ce n'est pas la première tentative de ce genre. Il y en a, Charles Quint, par exemple, avait organisé des colloques similaires dans l'Empire pour essayer de réconcilier luthériens et catholiques. Celui qui a lieu en France a lieu en octobre 1561 à Poissy. Il réunit un certain nombre de théologiens calvinistes, menés par Théodore de Bèze, des théologiens catholiques et des théologiens un peu d'entre-deux, des gens comme François Baudouin, par exemple, et Charles Guillard. Charles Guillard qui y est convoqué, on sait à cette époque-là qu'il fait figure justement d'un évêque acceptable entre guillemets pour les calvinistes qui serait justement susceptibles de trouver un terrain d'entente théologique avec les réformés. Le problème, c'est que bon, le colloque de Poissy s'achève sur un échec. Il n'y a pas de... À cette époque-là, les positions sont déjà beaucoup trop éloignées. Puis le problème n'est plus seulement religieux, il est aussi politique. Et Charles Guillard quitte la Réunion. Il sera ensuite sollicité pour un autre colloque, autrement plus important, puisque c'est le Concile de Trente.
Oui, avant de parler de ça, donc, au colloque de Poissy, qui d'ailleurs va se solder par un échec, puisqu'il n'y a pas de terrain d'entente, Charles Guillard aurait refusé de signer une profession de foi, élaborée par les théologiens catholiques, où la doctrine de la présence réelle du corps du Christ, dans les espèces consacrées, est nettement affirmée. Donc, quand on sait que le protestantisme va rejeter trois choses, d'abord le pape, quelle est l'opinion que Charles Guillon défend concernant le pape? Il refuse le pape, il refuse la messe, et puis il refuse la Vierge Marie. Donc là, il a déjà montré que la Vierge Marie, le culte marial, il est prêt à l'abandonner. Qu'en est-il du pape?
Effectivement, alors c'est pas très clair, parce que cette mention, on l'a dans un document qui fait référence à un témoin oculaire, mais enfin on ne sait pas très bien qui c'est. Semble-t-il donc qu'il aurait refusé de signer cette profession de foi, une sorte de document interne catholique juste avant le colloque de Poissy, et semble-t-il, si on en croit ce témoin, c'est le problème de la primauté pontificale qui l'aurait empêché de signer. Alors si c'est le cas, ça veut dire qu'effectivement il n'adhère plus au thèse à ce point assez important du dogme catholique, mais on peut aussi penser que c'était pour lui une démarche plus diplomatique que théologique, c'est-à-dire qu'il avait pu voir dans ce document une sorte d'empêchement à parvenir à un accord, et que finalement, lui, ce qu'il voulait, c'était négocier d'abord, signer des documents après. Donc à cette époque-là, les choses ne sont pas encore très claires. Par contre, évidemment, elles vont le devenir beaucoup plus lorsque, quelques années plus tard, en 1565, il publie un catéchisme. C'est l'un des premiers catéchismes publiés en France. Et là, évidemment, ce sont vraiment ses propres opinions qui s'expriment.
En français et en latin.
Oui, et il y a deux éditions, une en français, l'autre en latin.
Est-ce que c'est celui de 65 qui trouvera les louanges du pasteur parisien?
Oui.
Alors, qui va dire il y a un catéchisme à Chartres qui est fort intéressant pour les protestants, voilà. C'est ça?
Évidemment, il va susciter des réactions diverses. Il y a un pasteur protestant qui écrit à Théodore de Bèze et qui lui dit « Un évêque de Chartres vient de publier un catéchisme qui semble être tout à fait acceptable. » De l'autre côté, il y a la faculté de théologie de Paris, qui est vraiment la gardienne du dogme catholique en France, qui examine ce livre. Elle a la charge d'examiner tous les livres religieux, et les docteurs de la faculté ne sont pas du tout du même avis que le protestant, évidemment, puisqu'ils trouvent que c'est un catéchisme qui est très suspect, à la fois par ce qu'il dit et par ce qu'il ne dit pas, puisqu'il ne dit rien d'un certain nombre de sacrements, ce qui est un peu ennuyeux. Et par conséquent, les docteurs estiment qu'il doit être tout simplement mis au pilon et ne doit surtout pas être enseigné. Bref, tout cela commence à faire beaucoup, et à Rome, cela fait un moment qu'on instruit l'affaire de cet évêque. Il n'est pas le seul, il va y avoir 8 évêques français condamnés. Charles Guillard est l'un d'eux. Il est d'abord cité à comparaître en 1563, pardon. Cité à comparaître, il n'y viendra pas. Là encore, pour des raisons politiques, la couronne de France préfère que ne pas voir ses évêques s'expliquer devant Rome, préférant régler ses affaires de façon...
Donc le gallicanisme, il est
c'est
déjà
le gallicanisme est extrêmement fort à l'époque. Et on considère que l'Église de France doit jouir d'une certaine autonomie en la matière, et que sur toute une série de points, elle n'a pas de compte à rendre à Rome.
Il n'osera peut-être plus quand même de revenir à Chartres, parce que les chanoines étaient bien au courant, et même s'ils avaient souci de ne pas trop ébruiter ces soupçons qui pesaient sur l'évêque.
Effectivement, sa situation commençait à être difficile à Chartres. Il y avait eu déjà un problème à l'automne 1561, lorsqu'il avait fait prêcher quelqu'un dont on sait en réalité qu'il était tout à fait catholique. Il a été appelé comme expert au concile de Trente, mais qui semble-t-il a dit des choses qui ont déplu aux gens. Cela a failli susciter une émeute. Il y aura d'autres problèmes par la suite qui font que, à la fin des années 1560, Charles Guillard préfère ne plus trop revenir dans sa ville, parce que sa réputation est déjà assez compromise, non seulement à Rome, mais à Chartres même.
Il est intéressant peut-être de rappeler que toute sa famille basculera dans le protestantisme par la suite.
Une bonne partie, oui. Une partie de sa famille va devenir calviniste et l'un de ses cousins, par exemple, va être tué lors de la Saint-Barthélemy. Et la maison parisienne de Charles Guillard va d'ailleurs être saccagée.
Vous le rappelez, à Chartres, il n'y a pas eu de massacre.
Non, à Chartres, il n'y a pas eu de massacre pendant la Saint-Barthélemy.
On se limitera, même si c'est douloureux, effectivement, à chasser de la ville en 62 les
protestants. Oui, les protestants avaient été chassés à l'été 1562, peu après le début des guerres de religion.
Alors, vous l'avez rappelé dans l'une de nos précédentes émissions, que pratiquement tous les grands magistrats de la ville avaient basculé dans le protestantisme très vite. Deux frères de Hérouard.
Oui, qui sont les deux principaux, le lieutenant particulier, le lieutenant général, si l'on veut, le préfet, le maire, en quelque sorte. C'est pas très exact, mais enfin, disons qu'un certain nombre de magistrats vraiment importants avaient basculé. Toujours est-il qu'à la fin des années 1560, le protestantisme à Chartres a vraiment perdu la partie. Et du coup, dans une cité qui fait vraiment figure de forteresse catholique, eh bien, un évêque dont on sait qu'il a été condamné par Rome, parce qu'après la citation à comparaître, comme Guillard ne vient pas se justifier, comme en plus il publie ce catéchisme qui est censuré par la faculté de Paris, eh bien, les choses suivent leur cours. Et en 1566, le 11 décembre, un consistoire de cardinaux déclare Charles Guillard hérétique et, en tant qu'hérétique, déchu de son siège. Là, comme nous l'avons dit au tout début de l'émission, c'est une condamnation purement théorique. Charles Guillard va rester évêque pendant encore plusieurs années. Il va abandonner son évêché quelques semaines avant sa mort, hein, en 1573. Donc pas de suite pratique, mais enfin, à Chartres, la condamnation est connue. Et évidemment, lorsqu'on a un évêque qui est condamné pour hérésie dans une cité qui est très catholique, eh bien évidemment, cela passe assez mal.
Alors nous avons une image de Charles Guillard parce que vous reproduisez dans le bulletin de la Société archéologique, la dalle tumulaire dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Villeneuve sous Dammartin. Donc on voit toujours cette dalle funéraire.
Oui, elle existe toujours.
Elle n'a pas été saccagée à la Révolution.
Non, on a vraiment de la chance, on a une sorte de portrait. Dans quelle mesure ressemble-t-il à ce qui était l'évêque? On ne sait pas, mais chose assez rare, on a vraiment, c'est une très très belle dalle tumulaire qui représente l'évêque en pied dans ses habits, dans ses ornements sacerdotaux.
Avec mitre et crosse,
oui.
Des ornements fort, fort beaux, à en juger par les détails qui sont représentés. Donc ce pauvre évêque, le voilà déchu de son diocèse, et nous voilà déchus de notre temps de parole, parce que la demi-heure qui nous a été donnée, et avec un grand plaisir, utilisée pour présenter ce pauvre évêque, cette demi-heure, elle est révolue, donc il me reste seulement à vous remercier très chaleureusement, Nicolas Balsamo, pour la présentation que vous faites de cet évêque, de cette époque, de la réforme à Chartres. Un sujet très peu connu, je pense, et nous allons peut-être avoir l'occasion d'approfondir certains détails dans une autre émission. Merci beaucoup. Bonne journée, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, et à bientôt.